problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant la fin du championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours hein, avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà, c'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Lionel Charbonnier là, Daniel Riolo, Pierre Ducrot, l'after continue bien sûr pendant cette période sans match avec vous tous les soirs, 7 jours sur 7. On est évidemment ravis d'être avec vous tous et de pouvoir avec vous oublier tout ce qui se passe pendant 2 heures et puis reparler de notre passion, hein. Le foot ensemble bien sûr, le 32-16, vous le savez, est ouvert à tout moment pour participer avec nous. Il y a quelques infos du jour, les gars, bien sûr, toutes liées au coronavirus, mais quelques-unes que je voulais quand même partager avec vous. Vous dire que Liverpool, par exemple, aujourd'hui a mis à disposition ses stadiers, qui sont forcément au chômage technique, à disposition des supermarchés de la ville. Supermarchés qui sont pris d'assaut en Angleterre. Voilà, Liverpool a dit on vous donne les stadiers, ils vont vous faire un peu le service d'ordre. Vous allez voir, ça va rendre des services. Donc voilà l'idée du jour de Liverpool. Il y a les clubs, et on en a parlé l'autre soir avec Nicolas Olvek, qui se retrouvent en difficulté économique d'ores et déjà. C'est le cas d'Anderlecht, qui a viré son entraîneur adjoint. Voilà, pour des raisons financières. C'est l'ancien joueur Per Zetterberg, je ne sais pas si vous en souvenez, un Suédois. Donc il n'est plus du coup dans le staff d'Anderlecht. En Italie, le président de Brescia dit aujourd'hui « Laissez tomber, on ne reprendra pas. Ça ne sert à rien. Ce qui se passe est beaucoup trop important. Le foot est anecdotique. » Vous savez qu'en Italie, il y a des clubs qui pensent à reprendre. C'est le cas de Naples.
C'est le cas de Naples, ouais,
notamment.
Naples, ouais.
Apparemment, ils ont révisé la copie quand même.
Voilà, le président de Brescia a dit « Mais c'est n'importe quoi. Faut arrêter là, faut tout arrêter. Et puis ne rêvez pas, la saison ne reprendra pas. » dit aujourd'hui le président de Brescia. Voilà, sachez par ailleurs que Fellaini, qui joue actuellement, Marouane Fellaini, qui joue en Chine, a été testé positif lui aussi au coronavirus et donc mis en quarantaine. Il est actuellement sur place. Et puis voilà pour les principales informations du jour. Oui, si, info quand même lié aux Jeux Olympiques, parce que bon, souvent on parlait des Jeux Olympiques ces dernières semaines avec Mbappé qui voulait y aller et tout. On s'achemine, c'est une des infos du soir, vers un report des Jeux Olympiques. Le CIO a ouvert la porte à un report alors qu'il voulait a priori rien savoir ces derniers jours. Et puis ce soir, le gouvernement français s'est aussi positionné par la bouche de son ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a dit qu'il ne voyait pas comment on pouvait envoyer des athlètes aux Jeux Olympiques. Il y a pas mal de fédés de sports olympiques comme l'athlète, la natation, qui de toute façon ne disent que ça n'a aucun sens de maintenir les Jeux Olympiques, en tout cas aux dates prévues, c'est-à-dire dernière semaine de juillet et première semaine d'août.
Ça veut dire que dans ces conditions, si la Ligue 1 reprend, ça ne pourra être qu'à huis clos et avec une chance pas énorme que ça reprenne vraiment.
Bah tiens, Daniel, justement, Bernard Caillazot était ce matin sur RMC. Il a donné les derniers avis. Alors, vous savez qu'il est, lui, en tant que président du syndicat Premier League, dans toutes les discussions, évidemment, qui évoluent hein, de jour en jour. Donc, écoutez ce qu'il disait ce matin sur l'éventuelle reprise à la fin du championnat.
Bien évidemment, nous espérons que le championnat reprenne le plus tôt possible. On est prêt à jouer, on l'a vu, juillet-août. Il y a même des présidents de club qui disent s'il faut jouer après, on jouera après. Il faut finir et terminer la saison, c'est la priorité des priorités.
Voilà, même après, ouais. Donc on commence à parler de septembre.
Oui, ouais, ça, j'ai bien compris que c'était dans l'intérêt.
Parce que c'est l'intérêt vital. Économique des clubs, c'est-à-dire
parce que c'est vital pour les clubs.
Pour que les droits télé soient versés et compagnie. Bah d'ailleurs, il y a une proposition qui arrive sur le hashtag RMC Live aussi. C'est pas la première fois que je la vois. Certains disent, mais si on termine même en septembre, il y a qu'à faire comme en Amérique du Sud derrière, une demi-saison, tu sais, les fameux tournois d'ouverture et de fermeture, là.
T'as un opérateur qui a payé une blinde pour avoir sa saison à 38 journées derrière.
Oui. Ouais. Si c'est important,
tu vas pas lui donner une moitié de saison.
je pense que c'est important de faire une saison aussi l'année prochaine où les droits télé sont encore supérieurs.
Mais ouais, tu vas pas lui donner, si tu vas pas lui donner une moitié de saison.
Le problème, c'est que pour l'instant, c'est bien compliqué, évidemment, d'avoir une idée précise de ce qui va se passer. On est dans le flou le plus total. Et puis, avant qu'on parle de la JOCR 96, je voulais vous donner des nouvelles de Ronaldinho. Il a fêté ses 40 ans, donc toujours en prison au Paraguay et en plus confiné. Parce que, évidemment, l'épidémie arrive aussi en Amérique du Sud. Non, il ne peut plus jouer au foot, là. Confiné dans la cellule à cause du coronavirus.
Lui, dans la cellule, il t'en drip 10, hein, c'est pas un souci.
Oui. Avec une orange. Bon, Lionel. Mon petit Lionel, on a plein de questions à te poser.
Dites-moi tout.
Parce que saison 80. Alors, on va profiter. Alors, tiens, Pierre, je te préviens, sois pas surpris. Cette semaine, on va lancer une série où on va profiter de votre présence, à vous, là, nos afteriens, pour se remémorer quelques-uns des grands moments de votre carrière. Excuse-moi, Pierre, mais cette semaine, on fête les 20 ans de PSG Guignon.
Oh là là, ça tombe sans bien.
Bah, écoute.
Mardi et jeudi soir, si vous voulez.
Bah voilà.
Ah, mais moi, je pensais que ce que t'allais demander à Lionel et qu'il nous parle de ses années au Serroise, je pensais que ça rentrait dans la rubrique les anciens clubs oubliés. Non, ça rentre pas là-dedans.
Ah non, ça rentre, c'est des moments d'histoire qu'on aurait pu convaincre nos afteriens, tu vois.
Et mine de rien, puisqu'on parlait tout à l'heure des années 90 et du jeune public qui nous écoute et qu'on aime bien transmettre, te dire qu'aujourd'hui, cette petite ville de 38 000, 40 000 habitants avait chaque année une équipe compétitive en Coupe d'Europe et qui ne gagnait pas la Coupe d'Europe, mais souvent faisait des parcours au minimum où tu avais l'impression qu'elle donnait absolument tout et que quand elle perdait, c'est vraiment parce que l'autre était plus fort, que cette petite ville a donné autant de mecs en équipe de France et même deux champions du monde, je trouve que ça mérite d'être dit dans les clubs oubliés, parce qu'à mon avis, il y a des jeunes qui doivent se dire quoi ? Mais c'est quoi Auxerre ? Ben Auxerre, ça a été ça. Les années 90 d'Auxerre, c'est quelque chose. Moi, quand ils jouaient en Coupe d'Europe, je les adorais parce que je me disais, putain, ils sont tout petits, mais eux, ils vont se défoncer.
Mais tu sais qu'on avait un public qui venait de partout, hein, pour nous voir jouer. Il y avait énormément de Parisiens qui venaient nous voir jouer.
Et qu'est-ce que vous représentiez ?
Il y avait des Lensois.
Et qu'est-ce que vous représentiez ? Parce que c'est ça, quand je dis tout le temps qu'il faut raconter une histoire.
Avant que tu répondes à Daniel, Pierre, tu allais voir les matchs d'Auxerre quand tu étais petit ?
J'ai été voir deux matchs de. Bien sûr. Quand j'étais petit, non, j'étais ado, tu vois, moi, ado, même un peu plus, quoi.
T'étais au centre de formation ?
C'était pas loin. J'étais entre le centre de formation et passé pro, tu vois. Moi, j'ai commencé mes premiers matchs en 95. Donc, moi, c'est mes années. Tout à l'heure, je regardais l'effectif, justement, quand au début de l'émission, on a parlé de 96, je regardais l'effectif, je voulais être sûr. Moi, je suis très, très pote et je suis en équipe de France de jeunes avec Fabrice Le Poll. Par exemple. Tu vois, c'est la même génération que moi. Donc, Fabrice Le Poll, pour vous qui connaissez.
Après, il est devenu boulanger, non ? Ça n'a pas marché pour lui, le foot, non ?
Ou barman, le pauvre. Ouais, non, mais il a fait.
Ouais, tu crois pas si. Malheureusement, Daniel, il a eu un accident grave de voiture. Alors que c'était un. Non, mais c'était un super ailier gauche, un super joueur. Enfin, Hugo, tu l'as connu encore mieux que moi, mais moi, je l'ai connu pendant 5-6 ans en équipe de France.
Alors, son problème, c'est. Ouais, c'est un très bon joueur. Bah voilà, un mec qui était technique, qui allait vite et qui avait la technique appropriée, Daniel, par rapport à sa vitesse. Il s'est grillé, le pauvre, c'est qu'il a eu un accident à 4h du matin, quoi. Avec 4 grammes. Et à Auxerre, tout se sait. Et là, ça n'a pas pardonné, quoi.
Et donc, il a été gravement blessé, en plus. Ouais.
Ce que je disais, oui, pourquoi vous plaisiez à la France entière aussi, c'est parce que vous racontiez une histoire, celle du, on va dire, le bon sens près de chez vous, comme disait la pub pour une banque.
Mais parce que c'est français, le français aime le petit poussé, Daniel. Hein.
Parce qu'il y avait ça, et puis il y avait le côté banque populaire, le côté le football.
Le Crédit Agricole, pas banque populaire, c'était même sur les maillots.
Crédit Agricole là-bas.
Oui, d'accord. Je faisais référence à la publicité, le bon sens près de chez vous, il me semble que c'était banque populaire. Et c'était ça, c'était genre le foot qui raconte un truc, c'est le foot paysan, le foot.
Mais il y avait du jeu et du talent aussi.
Mais il y avait du jeu. Oui, mais ça racontait une histoire. Ça racontait un truc. C'est pour ça que tu accrochais ce truc. Donc,
parce que les gens pouvaient s'identifier. C'est-à-dire que maintenant, beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'identifier. Alors, ils adorent le PSG, ils adorent tout ça, mais tu ne peux plus t'identifier au Neymar et tout ça. T'avais l'impression qu'en venant jouer à Auxerre, n'importe quel mec du coin pouvait jouer, mettre le maillot, et puis il avait qu'à se défoncer parce que on n'avait pas des mecs qui étaient des génies, des mecs hors normes, des trop payés, des ci, des ça. On parlait pas de salaire, jamais on a entendu trop payé à Auxerre. De toute façon, on était les speakers du football.
Ça parlait pas salaire, mais moi je suis pas d'accord. Vous aviez des joueurs très très talentueux quand même.
Oui, enfin, oui, mais on n'était pas
bien payé.
Un Sabri Lamouchi, un Moussa Saïb.
Ouais, ouais, mais
on... j'en oublie, mais des Coquards, des Diomèdes.
Après, ils ont eu Corentin Martins, le titre de 96.
Corentin Martins aussi, après.
Ils avaient toujours un numéro 10. Ils avaient toujours un numéro 10. Parce que c'était
On avait Enzo Schifo qui est venu sortir la cerise juste avant Martins.
Schifo, c'était fabuleux. C'était un joueur extraordinaire.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'en 96, ça a fonctionné et que Auxerre gagne le doublé cette année-là?
Parce que le PSG a donné le titre cette année-là.
Ils ont rien donné du tout. Et on est allé le chercher parce que ce qui fait, je pense, notre unité, c'est parce que déjà il y avait une ambiance terrible, il y avait un esprit d'équipe. Déjà, si tu regardes l'équipe, on était beaucoup à sortir du centre de formation. C'était la politique, et donc on avait vécu les premières galères ensemble. On avait signé nos contrats pro ensemble, et on était unis pour la vie. Quand tu signais à Auxerre, tu signais tout le temps des contrats de longue durée. Donc tu te battais pour le copain, t'avais une unité dans les lignes, entre les lignes, après les matchs, un truc de fou. On a fait les 400 coups, on a fait des grands matchs incroyables, et après on a fait les 400 coups ensemble. Moi je me souviens d'une réflexion cette année-là, à la fin, lorsqu'on gagne le titre à Guingamp, Giroud nous prend la parole et il nous réunit dans le vestiaire et solennellement, tu vois, il nous dit, vous savez les gars, si on a été champion cette année, c'est parce qu'on a été beaucoup plus sérieux que tout le monde. Et c'est l'année où on a fait la fête comme on n'a jamais fait la fête, parce qu'on s'est lâché complètement et on s'est regardé avec Laurent Blanc, on s'est regardé avec Lolo, puis on s'est dit putain, qu'est-ce qu'ils ont dû se mettre les autres. Parce que c'était alors attention, dans la fête, quand on faisait la fête, il faut pas croire, il y avait des règles. Quand on jouait tous les trois jours, aucune fête. Ça, c'était pas possible. On faisait la fête confinée. On était chez nous déjà, tu vois. On avait anticipé, malheureusement. On se montrait pas.
Je prends l'équipe. Tu parles des joueurs formés au club. Donc toi, Rabah Rivoni.
Oui.
Formé au club. Goma, formé au club, Goma ?
Oui, bien sûr. Oui.
Qu'est-ce que j'ai encore ?
Coquard. Il y avait Blanc, et Blanc n'était pas lui.
Coquard, formé.
Formé au club. Diomède.
Oui. Formé au club.
Formé au club. Violo.
Formé au club. Il est arrivé un petit peu. Non, post-formation.
Post-formation. Ouais, bon. Et sinon, il y a aussi.
Il est arrivé à 19 ans, 20 ans.
Il y en a qui ne sont pas formés au club aussi cette année-là. Hein. C'est pas à 100%.
Oui. Il y en a d'autres
ils ont toujours eu, en fait, Auxerre, il y avait une ossature à 80%, et après il y a toujours eu Giroud se démerdait soit pour aller trouver un attaquant dans les pays de l'Est, soit il a réussi des coups
à Polonais, en général
faire venir Enzo Schifo à Auxerre, c'était quand même un sacré truc.
Laurent Blanc, c'était des joueurs, Daniel, qui devaient se relancer.
Exactement.
C'était des joueurs qui arrivaient pas cher, qui avaient ils étaient Laurent Blanc signe à Saint-Étienne juste avant de venir chez nous, et à Saint-Étienne ça se passe mal, et c'est Gérard Bourgoin qui va le chercher et qui le persuade de venir chez nous. Malheureusement Lolo se blesse tout de suite, il a pas joué tous les matchs aller, il les a pas joués, et c'est quand il est arrivé dans les matchs retour à partir du mois de décembre, janvier, je crois, par là, pratiquement les matchs retour, qu'on a commencé à faire cette remontada et aller chercher.
Alors,
il faut
quand même parler du PSG. Contexte, Lionel, parce que le PSG a 10 points d'avance à la trêve, ou 11.
Exactement.
Peut-être.
Exactement.
Il y a Ambrou.
Nous, on est troisième ou quatrième encore. Hein.
Ouais.
Troisième au moins.
Après, il y a toujours des contextes, parce qu'il n'y a pas que vous qui avez fait des remontées comme ça. Il y avait eu celle de Marseille sur Bordeaux. Le PSG, en fait, dans l'année où ils vont gagner la Coupe d'Europe, il y a embrouille entre Louis et certains joueurs. Enfin, il y a des résultats absolument surréalistes.
C'est cette année-là qui rappelle Yannick Noah.
Et il y a vous, oui, mais pour la finale. Et vous, après, vous faites une seconde partie de saison en boulet de canon, avec notamment une victoire contre le PSG dans un match un peu charnière. Non, tu te souviens de ce match-là ?
3-0, le 24 mars.
C'est un match de dingue, celui-là.
Diomède, Martins, Coltard contre son camp.
Ah ouais, c'était chez nous, ça.
Ouais.
Comment tu peux te pas souvenir ça? C'est le match charnière. C'est là qu'on se dit que vous pouvez peut-être le faire, que personne croit en vous.
Ouais. Alors c'est le match qui nous a donné espoir, effectivement. Mais tu sais, cette année-là, on s'est regardé, on a fêté, parce que t'es content quand tu bats le PSG 3-0, t'es hyper heureux. Mais on s'est tous regardé. Je crois qu'on a tous pensé la même chose, mais personne n'a sorti le mot. On va aller chercher le titre. On va aller les chercher parce qu'on est encore loin. Là, on se rapproche grâce à la victoire. Et on n'en a jamais parlé. Jamais on a parlé du titre, comme jamais on a parlé de gagner la Coupe du Monde en 98. tout était, il y avait rien qui sortait. C'était dans les esprits de chacun, juste dans le regard. Tu savais que on se défonçait à l'entraînement et sur le terrain, tout simplement parce que on avait cet objectif commun, aller chercher le PSG étonnant, et aller chercher un doublé.
Lionel, c'est étonnant parce que parfois les champions ont pas une aussi bonne mémoire que ceux qui regardent. Mais c'est très bizarre que tu te souviennes pas de ce match qui est très marquant parce que il y avait un choix de Luis dans ce match-là, preuve qu'au PSG il y avait des choses qui tournaient plus tellement rond et il s'était fâché avec pas mal de mecs. Et il fait jouer, tu dois forcément te souvenir de ça. Il fait jouer un joueur qui s'appelle Cédric Pardeillan, qui se fait humilié par Diomède.
Ah, Jojo, il a mis la misère. Il a mis la misère, sur son
c'est
côté.
Plus, hein. C'est plus que la misère. Ouais. Parce que derrière, ça a flingué sa carrière à ce petit Pardaillan.
Et ouais, maintenant décide, que tu m'en parles, tu vois, mais j'ai pas
Et Luis décide de faire jouer ce gamin. On sait, je sais pas si
c'est trois jours. C'est ça l'a tué. Je me souviens très très bien parce qu'avec ça Cédric, on était très. C'est un joueur. Non, mais c'est un joueur qui était arrivé en post-formation au PSG, donc il était de Pau, comme voilà. Édouard Cissé d'ailleurs, c'était un peu la même filière. Et c'est vrai qu'il arrive, on fait une première saison ensemble. Moi, ensuite, je suis prêté à Laval, mais je suivais très attentivement la saison et je suis pote avec Cédric. Et c'est vrai que ce match-là, il est horrible pour lui parce qu'il passe au travers complètement et ça lui a vraiment mis un coup d'arrêt à sa carrière. Alors Luis le sort en plus.
Non seulement il le titularise et personne n'attendait ça, c'était une surprise.
Mais tu sais pourquoi? Je sais pas si tu te rappelles. Non, il y a aussi que c'était trois jours après Parme, en quart de finale de C2 à l'époque, et qu'il fait tourner un tout petit peu, quoi, Luis. Et Cédric Pardaillan en fait partie de ces joueurs-là.
Alors, tu voulais parler du match de Guingamp.
Je sais pas si c'était la vraie raison, mais je crois que c'était pour ça à l'époque.
Le fameux match de Guingamp du titre, t'avais deux, trois anecdotes sympas.
Ouais. Alors, juste avant Guingamp, parce que le titre, on va le chercher, mais ce qui nous a vraiment libérés, c'est la demi-finale contre l'OM.
Demi-finale de Coupe de France
contre l'OM, parce que
vous faites le doublé cette année-là.
Et on fait le doublé, ouais. Et on savait que. Alors, déjà, tu joues, tu sais que le vendredi, il y a un Nîmes-Montpellier, et Nîmes gagne. Donc Nîmes qui était en national. Donc tu sais que le vainqueur, toi nous on jouait le samedi, le vainqueur de l'OM AJA va jouer contre Nîmes qui était une équipe de national au Parc pour la finale. Donc la vraie finale elle est là. La vraie finale tu la joues contre l'OM et on arrive à battre l'OM très difficilement, mais on arrive à battre l'OM là-bas au penalty. Et donc déjà ça nous libère
l'OM
parce que
en plus doit remonter de Ligue 2, hein, c'est pas un
exactement, OM, ouais, exactement. Ouais. Exactement. Et donc en les battant chez eux, nous ça nous libère parce qu'on avait tout le temps un objectif, au départ, c'était dans les 15 premières journées, c'était le maintien, c'est vrai et c'était véridique, c'était le maintien parce que ça nous permettait de refaire une année supplémentaire et d'asseoir nos salaires et nos contrats. Et ensuite, si on voulait augmenter nos contrats, fallait aller chercher l'Europe. Et avec cette finale on pensait bien que la finale contre Nîmes, on allait normalement on allait être champion, on allait gagner. On a eu des difficultés. Bon, on a réussi à gagner cette Coupe de France. Et on va jouer à Guingamp. On est libéré parce que on a déjà un titre en poche. On sait qu'on va pouvoir demander des salaires supplémentaires l'année d'après. Et ce jour-là, on joue à Guingamp. Et c'est vraiment. Alors, faut savoir que pendant toute cette période-là, il y a Gérard Depardieu qui nous. C'était un peu notre gourou, tu vois. Il nous suivait tout le temps. C'était fabuleux. Avec Gérard Bourgoin, bien sûr.
Il faisait quoi, Depardieu ? Il servait à quoi, d'ailleurs ? Enfin, juste à vous faire marrer, ou c'était quoi l'histoire ?
Non, il nous suivait de temps en temps. Bon, nous, on était très liés avec Gérard parce qu'il a joué dans, les buts un petit peu, Gérard. Moi, il venait souvent me voir dans ma chambre. On parlait beaucoup avec Bourgoin, les quatre, Depardieu, Bourgoin, Lolo, moi.
Enfin, il te parlait de quoi ? Il faisait les théories sur le foot ou il parlait de...
Non, pas du tout. On parlait de la vie, on refaisait la vie, on rigolait, on se marrait. Moi, il me racontait des fois sa chasse au lion avec. Une chasse au lion qui existait même pas, mais j'étais dedans, tu vois. Je t'ai raconté cette histoire de chasse au lion? Non. C'est la première fois. Bah, la première fois, si tu veux, je te la raconte, il y en a un peu de temps. La première fois où je vois Gérard Depardieu, il arrive avec Gérard Bourgoin. Les deux sont cramés, ils ont la tête cramée, tout ça. Puis, à la fin du match, on a fait un match, je sais plus, j'étais très fatigué et Gérard vient vers moi. Moi, je venais de voir Cyrano de Bergerac à la télé, tu vois, un truc comme ça. Et puis, il me dit, oh, mon yo, ça va, comment tu vas? J'ai dit, putain, il se fout de ma gueule, lui. Et je revoyais Cyrano de Bergerac, tu vois. Et donc, je fais pas attention à lui. je le snob un petit peu. J'étais fatigué. J'étais assis sur mon banc là dans le vestiaire. Tous les joueurs, eux, bon, les joueurs c'est différent parce qu'ils vont prendre la douche tout de suite. Moi, c'est une tension nerveuse et donc je mets un petit peu de temps. Ils voient que je le caque pas, donc il s'en va. Et ensuite, on avait un match de Coupe d'Europe 3-4 jours après. Donc obligation de faire les massages jusqu'à 1h du matin. Tu vois, on se faisait masser. Et là, il revient dans la salle. Et moi, j'avais décompressé. Il me fait, alors, Moyo, ça va mieux, comment? Et j'ai dit, bah, et puis j'ai dit, bah, attends, mais il se fout pas de ma gueule. Je dis, moi, je vais rentrer dans son jeu. Salut, mon Jay, ça va, mon Jay? Alors, qu'est-ce que tu me, mais pourquoi t'as la gueule comme ça? Parce qu'il était cramé. Je dis, pourquoi? Il me dit, oh, faut que je te raconte, tu sais pas quoi. Il dit, on était à la chasse au lion, tous les deux, avec mon Jay. Tiens, il dit, je vais te raconter. Et là, il me raconte l'histoire, où il est dans la savane, avec le vent qui souffle, alors il se met dans le sens contraire du vent. Il me raconte toute la chasse. C'est tout. Et puis il dit tout d'un coup, moi je fais le con, il dit le vent il tourne, je fais pas gaffe, le lion il me saute dessus, et s'il y a pas mon Gérard qui est là, Gérard Bourgoin, il dit, il lui tire dessus, il dit tiens, il dit s'il est pas là pour lui tirer dessus, il dit, il regarde sa montre, il fait tiens, pile poil à cette heure là ouais, il sera en train de me chier dans la jungle ce con de lion. Mais en fin de compte
en fin de compte, bon, il chasse le lion, putain,
non pas... non pas du tout, mais je crois pas parce que
il te raconte un bobard quoi, en fait.
Mais ouais, mais un film, un truc de fou, hein, mais un truc pour te mettre dans l'ambiance, pour te...
Écoutez-moi, écoute ce document. On a Gérard Depardieu qui parle de Lionel Charbonnier. Ça, c'est fort quand même. Écoute.
L'ange gardien des Bourguignons a également beaucoup d'affinités avec Lionel Charbonnier.
C'est un vrai gardien de but. C'est un poète.
Mais ouais, mais on était comme ça parce qu'on refaisait.
Ah, aussi, les gardiens étaient poètes. Hein. Joël Batz a écrit des poèmes.
Il y avait Joël. Ouais, ouais, bien sûr. Ou mathématicien, il y avait
Martini,
avec
Bruno. T'es moins poète,
peut-être Bruno Martini, t'es un peu moins
Bruno,
poète.
C'est un matheux, Bruno. Bon, et on arrive à Guingamp. Arrive à Guingamp, on fait 1-1. Et là, l'histoire que je vais vous raconter, c'est parce que c'était fabuleux. C'est la première fois. J'ai toujours eu une bonne atmosphère, même avec le public adverse, ce soit à l'OM, un petit peu moins au PSG quand même, mais moins. Mais à l'OM, c'est toujours bien passé tout ça. Et là, franchement, on avait 1-1 avec un match nul. On sait que ce jour-là, il me semble que le PSG perd le match ou devait absolument faire une victoire. En tout cas, le match est fini chez eux. Chez nous, il y avait des arrêts de jeu. On avait encore 10 minutes de jeu. Au PSG, ça se termine. Ils font pas le résultat. Et nous, avec un nul, ça nous qualifie. Et tout d'un coup, on le sait. Alors, Giroud était sur le... Comment ?
Ça vous met champion, tu veux dire ?
Ça nous met champion avec le avec le nul, on devient champion avec le mauvais résultat du PSG. Et là, tout d'un coup, on entend que tout le monde entend dans le stade que le PSG a perdu ou en tout cas n'a pas fait le résultat qu'il devait faire. Et donc, t'entends une clameur où tous les spectateurs de Guingamp se mettent à être supporters de la JOCR et scande Auxerre et tout. Et à la dernière minute, tu sais, il y a un corner.
C'était l'alliance du football de la campagne, c'est beau.
Mais oui, mais bien sûr, parce que c'était la même chose. À Guingamp, ils avaient encore moins d'habitants que nous. Et donc, c'était le petit poussé. C'était fabuleux pour eux, c'était extraordinaire. Et il y a un corner à la dernière minute, un corner qui n'existait pas. Le mec, il tire, elle rase mon poteau, je vois qu'elle sort, j'enlève la main et l'arbitre dit corner. Et là-dessus, tout le public siffle, dit non, il n'y a pas corner. Le Guingampais va pour tirer le corner.
Une alliance des petits.
Ouais. Mais ouais. Et le Guingampais va pour tirer le corner. Et puis, l'arbitre me dit, sors! Alors, moi, je sors. Mais j'avais pas le droit de sortir. Tu sais, au CERT, t'avais pas le droit de sortir des 6 mètres, hein, sur les, ce truc-là. Donc, je sors. Et puis, ouais, je suis un petit peu bousculé, faute contre moi. Il me dit, dégage en touche! Et puis, je dégage en touche et il siffle la
fin
du match.
C'est l'arbitre qui te dit ça.
Ouais.
C'était qui cet arbitre?
Oh, je sais plus, mais c'était parce que tout le monde, c'était une atmosphère qui était extraordinaire. C'était tout le monde et tout le monde, mais il n'y a pas que tout le monde voulait. Je pense même que, non, pas les Guingampais, parce qu'eux, ils sont allés à 200%, hein, pour, ils essayaient de nous marquer, mais ils comprenaient pas. Les Guingampais regardaient leur public en disant, mais vous êtes fous! Les joueurs, ils regardaient leur public, ils disaient, mais vous êtes fous, nous, on va gagner la dernière minute. Et les joueurs, le public était contre eux.
On va continuer.
C'était fabuleux.
On va continuer d'en parler dans quelques instants parce qu'on a Mathieu qui est supporter de la GIA qui veut intervenir, donc on se retrouve dans quelques instants avec encore quelques anecdotes sur cette fameuse année 96 de la JOCR. Je vais te poser maintenant, je te dis pas parce que sinon tu vas pomper pendant la pub, parce que je vais te poser un petit quiz là dans quelques instants.
Oh mon Dieu, mais non, mais c'est
allez,
pas
à tout
possible
de suite.
RMC l'After Foot, Gilbert Bribois.
Et oui, l'after se téléporte à Auxerre. Auxerre 96 avec Lionel Charbonnier, avec Pierre Ducrot, avec Daniel Riolo, avec Mathieu, supporter de la GIA, dans quelques instants. Mais d'abord, deux petites questions, Lionel. Est-ce que tu confirmes cette anecdote incroyable qui fait que Giroud, quand vous partiez en avion, souvent vous preniez deux petits avions? Et que quand il y avait deux petits avions, il voulait absolument qu'il n'y ait pas les deux gardiens dans le même avion?
Bien sûr.
Ah, mais c'est incroyable.
On avait deux.
Parce qu'il croit que si un des deux avions s'était crashé, le match se serait joué quand même?
Mais exactement. C'était fait pour ça. C'est pas que le match se serait joué, mais en tout cas, il lui restait encore un gardien, quoi. Donc les tripots de belote, tu vois, pendant le trajet, les gardiens pouvaient pas jouer, quoi. Tu pouvais pas faire un binôme de gardiens.
Il y avait Ronan Lechrome.
Il y avait Ronan qui était troisième. Il y avait Fabien Coul qui était ma doublure.
Ah oui, Fabien Coul, exact.
Parce que les gardiens à Auxerre,
ils vérifiaient
toujours
tout le temps,
hein. Le titulaire, la doublure prend la place du titulaire au bout d'un moment. Il y avait tout un ordre
bien
organisé.
Exactement. Et tu jouais, il n'y avait pas de turnover. Fabien a joué très très longtemps. Il a le record de match, hein, je crois. Et surtout, il n'y avait jamais de turnover. Il n'y avait pas de, lors des coupes et tout ça. Les gardiens jouaient tous les matchs.
C'est comme les rois de France. C'est-à-dire que tu avais Joël 1er, Bruno 2, Lionel 3, après c'était Ronan 4.
Fabien 4.
Et Ronan 5. Voilà.
Voilà, c'est ça. c'était comme ça.
Tiens,
c'était
petit quiz. Il n'y avait que 3 étrangers dans cette équipe. Qui sont-ils?
Les étrangers dans cette équipe?
3 Africains.
Moussa Saïb. Taribo West.
Moussa Saïb, ça fait 1. Taribo West, officiellement né le 23 mars 1974. Ça, c'est sa date officielle. Hein.
Moussa Saïb? Afid est extraordinaire. Afid est extraordinaire.
Il a marqué pas mal de buts. Le meilleur buteur de la saison, à votre avis, t'en souviens de ça?
Pas Denis.
L'Asland, non?
Eh ben non, c'est pas l'Asland. Ni Diomède. C'est Corentin Martins.
Coco.
Ah oui, c'est lui qui a marqué le plus de buts. Alors que c'était pas un attaquant, Corentin Martins. C'était un meneur de
jeu. Non, c'était un numéro 10.
Et alors. Auxerre gagne aussi la Coupe de France.
Ouais.
Alors, on va faire un petit jeu pour voir. Est-ce que tu es capable de te remémorer toutes les équipes que vous avez éliminées?
T'es fou, toi? Marseille en demi.
Marseille en demi, d'accord.
Ça, ouais. Et après, je suis incapable.
Tour d'avant, vous avez gagné contre une équipe de D2, Valence. Valence dans la Drôme, hein, évidemment. Là, vous gagnez. Et au tour d'avant, vous battez le PSG en 8e, 3-1.
Oh.
Ouais. À Auxerre.
Je suis capable de te dire tout ça. Ah ouais.
En 16e, vous gagnez au Mans, qui est alors en D2.
En D2, ouais, Ligue 2.
Et au premier tour, vous gagnez à Lyon, 1-0. Ok, il y a des gros clubs.
Ah, je m'en souviens de ce match. Je m'en souviens de ce match là-bas.
C'est un beau parcours. Hein.
Bah ouais, c'est pas mal quand même.
On a eu Lyon dès le départ. On s'est dit, ça y est, ça va être chaud. Et puis on les bat. Et après, on a un petit peu de chance quand même au tirage. Après, c'est difficile. Là où on était fort avec Auxerre, c'est qu'on avait tout le temps cette humilité que quand on jouait contre les petites équipes, on les prenait jamais de haut. Et donc, c'est très très rare qu'on ait perdu un match contre une équipe de catégorie inférieure. Très très rare. Je me souviens d'un match où on a perdu contre 3 à la dernière minute sur une faute d'arbitrage, mais on a perdu.
D'ailleurs, c'est Monsieur Leduc, l'arbitre de Guingamp au Serein.
Monsieur Leduc?
Ouais, on le dénonce.
Ouais. Mais parce qu'il avait fait une connerie. Attends, il y avait jamais corner. On était tous énervés. et tout le monde l'avait vu. Donc.
Allez, et pour conclure, tiens, on a retrouvé aussi un petit bout de Giroud après la finale de la Coupe de France que vous gagnez contre Nîmes. On écoute.
Il y a du monde dans les 16 mètres. Attention au contre.
Il est bien inspiré de ce sol. Ils ont gagné les Auxerrois.
Coupe de France partira en Bourgogne.
Et bravo aux Nîmois.
Thierry Jean-Michel?
Oui.
Oui, en compagnie de Giroud. Giroud, que ce fut dur.
Oui, mais on s'y attendait. Ceux qui annonçaient des scores fleuves, qui pourtant apparaissent d'habitude comme des connaisseurs, s'étaient lourdement trompés.
Ouais. Mais ouais, c'était très compliqué. Mais tu sais qu'on l'a su dès le départ.
Réentendre, enfin, je sais pas, Daniel, Pierre, ce que ça vous fait, mais réentendre Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, Giroud, enfin, c'est
génial. La Coupe de France sur TF1.
Ça nous replonge quand on était gosses, quoi.
C'était un match très compliqué, hein, parce qu'on avait gagné la Coupe de France 2 ans avant, au Parc, et c'était contre Montpellier. Et c'était la Coupe de France, c'était Montpellier-Auxerre. Et donc, comme on était chez le, on était visiteurs, c'était Montpellier qui recevait, on avait nos vestiaires de qu'on avait l'habitude d'avoir quand on jouait contre le PSG. On était dans le vestiaire visiteur. Et puis ce deuxième match, cette deuxième finale, c'est Auxerre-Nîmes. Et donc là, on se retrouve carrément dans le vestiaire du PSG. Et nos repères ont tout changé. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce vestiaire? Nous, on n'avait pas l'habitude d'avoir des grands vestiaires comme ça et tout. On s'est dit, oulala, excuse-moi le mot, mais ça sent la merde. Aujourd'hui, on sort le premier match qu'on avait gagné contre Montpellier. On est sorti pour aller voir la pelouse. Il y avait, je sais pas combien contient le parc, c'est 50 000. Combien
ouais, c'était 45 000.
Ouais. Ah non, à 45. Moins, à l'époque, un peu moins.
45 000. 45 000, c'était plus. C'était blanc et bleu. Il y avait plus de spectateurs que d'habitants pour nous, de fans, que d'habitants à Auxerre. Le stade, il était blanc et bleu. C'était chez nous. On était chez nous.
Bon, cela dit, Montpellier, il jouait quoi? Il jouait en quoi? En blanc et bleu.
En bleu et blanc.
Ah voilà.
Non, ils avaient le truc orange. Non, ils étaient orange. Ils jouaient vraiment à l'extérieur. Non, là on entendait les chants et tout. Je savais que c'était Auxerre. On était vraiment chez nous. Et là, quand on est rentré sur.
On t'adore.
Et donc là, quand on fait ce deuxième finale contre Nîmes, on sort là. Et là, tout est inversé. Un, on est dans le vestiaire du PSG. Deux, le stade est rouge et blanc, ce sont que des Nîmois, il y a même plus d'Auxerrois. Et là, on s'est dit, oulala, ça va être compliqué. Et effectivement, je crois qu'on perd 1-0 à la mi-temps. Hein. On est fou, à la mi-temps, personne s'assoit. On est cinglés, on s'engueule les uns les autres. On se dit c'est pas possible, Giroud il peut pas en placer une. Toi tu fais ça. On refait, Giroud il nous a dit de nous asseoir 2-3 minutes, tu vois. Mais on était tellement énervé d'avoir mal joué qu'il a pas pu en placer une. Et en deuxième mi-temps, bon, on doit marquer d'entrée et puis après on gagne 2-1, je crois, cette finale. Et je crois que c'est Laurent Blanc qui marque de la tête, non? Il me semble.
Contre Nîmes là.
Ouais, il me semble.
Je vais te dire.
Il me semble, et donc on n'était pas fiers de nous, mais enfin on a fait une bonne deuxième.
Le but de la victoire, c'est Lasland, 88e.
Lasland, et c'est pas Laurent Blanc qui marque le premier but sur corner.
Ouais, 52e.
Sur corner, ouais, de la tête, ouais. Ah voilà. Et on a fait le taf et dans une finale, le principal, on n'a pas été bon, mais on a fait le taf et on a gagné. Et c'était la deuxième.
On va conclure avec Mathieu, ouais, qui est supporter de la JA. Mathieu, bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir,
salut Mathieu.
Mathieu, t'avais quel âge en 96?
Ah, j'avais quel âge? J'avais 5 ans. Je suis de 91.
Bon, et t'as un souvenir de ce doublé ou c'est des...
Alors, moi j'ai très peu de souvenirs de la génération de Lionel, mais bon, après on a revu parce qu'on a eu de nombreuses épopées, donc on a pu revoir les différents trophées et puis les succès du club. Mais moi c'est surtout la génération de Djibril, de Liv Capo et tous les autres.
Ah, le fameux maillot préféré de Daniel.
Le maillot Kappa.
Voilà, tout à fait, le fameux moulant. Et voilà, moi j'avais surtout une petite question pour Lionel, parce que j'ai été de
la dernière
fois
bonne équipe d'ailleurs qui a gagné un titre à Auxerre, non, la Coupe de France 2003. La dernière belle équipe d'Auxerre, on peut dire. Celle qui gagne 2003, c'est celle avec, c'est ça, c'est Cissé, Capo, enfin cette équipe-là.
Ouais, exactement. Qui avait du centre de formation.
Arsenal, mais on va dire qui gagne un vrai titre, c'est la Coupe de France 2003, quoi.
Ouais, c'est ça.
Je vois pas d'autres.
Donc Mathieu, ta question?
Oui, ma question c'était s'adresse à Lionel. C'est, est-ce que c'était pas un peu frustrant d'avoir une équipe aussi compétitive sur le plan national à l'époque, avec une ambiance plutôt calme à la Baie des Champs, hein, par la Leclerc qui fait un petit peu de bruit et qui est accompagné par la tennis.
Les soirs de Coupe d'Europe, c'était pas mal.
Non, non, c'était une belle ambiance, hein, je te promets. Auxerre, c'était plein. C'était à ce moment-là, toutes les tribunes étaient pleines. T'habites où? T'habites à Auxerre?
J'habite dans les Hauts d'Auxerre, vers l'hôpital.
Ah bah alors jusque là t'avais les voitures étaient garées parce que le parking était très petit, le parking du stade, donc pour dire aux gens c'est à peu près 3 km, hein, de la JA. Les voitures étaient garées sur les trottoirs jusqu'au Haut d'Auxerre, vers Fourier, quoi. Il y a 2 km
et demi.
Ouais, d'un côté sur l'autre, et tu peux pas passer, même le bus, nous on pouvait pas passer, et c'était comme ça à tous les matchs, hein. C'était une vraie grosse ambiance. C'était vraiment fabuleux.
Nous, on descendait à pied à l'époque.
À pied. Tu descendais à pied. Mais ouais, tu pouvais pas.
Et dis-moi, Mathieu. À notre époque. Je vais te passer un extrait, historique de la JOCR. Tu vas nous dire ce que t'en penses. Attention, document.
Vous l'avez dit, hein, je ne me suis pas trompé. Hein. Je le sentais. Hein. Oh, c'est dur. On va finir troisième. De pouvoir serrer la main Mourinho, ça c'est quand même c'est sympa,
hein.
Je vais faire une photo avec lui.
Qu'est-ce qu'on a chambré Jean Fernandez quand même.
Giroud qui faisait toujours le petit face au gros, jamais il aurait dit un truc pareil.
Ah non, jamais il aurait dit ça, Giroud.
Jamais.
Ah oui. C'est vrai, ça.
Il serait allé la tête baissée.
Non, mais il t'aurait fait une sortie sur l'arbitre déjà. Attention, voilà. Cet arbitre, il a déjà arbitré 50 fois l'équipe d'en face, machin.
Il lui aurait serré la main par respect, mais il l'aurait même pas regardé dans les yeux. T'es un petit, entre guillemets, il lui aurait fait croire qu'il était un petit. Après, il lui aurait fait un gros câlin à la fin du match, mais avant le match, non, c'était pas possible ça.
Bon, en tout cas, c'était sympa de se remémorer tout ça, Lionel, merci.
Et tu sais que, juste une toute petite dernière, quand on a gagné, quand on est arrivé de Guingamp, un truc qui s'est jamais refait depuis, parce qu'on est arrivé, comme tu disais, avec les petits avions, tout Auxerre, on n'a jamais pu atterrir, on a fait 3 tours de l'aérodrome d'Auxerre, de Branche, parce que toute la ville était sur le tarmac, et on n'avait plus d'essence. On n'avait plus d'essence et plus de gasoil dans le bordel.
Moi, franchement, les avions, là, parce que ça, c'est un truc. Moi, ça m'est arrivé, jeune journaliste, d'appeler un jour Gérard Bourgoin. Je suis plus avoir des infos, j'en sais rien. Et dès quand je fais allô, ouais, attends, je te rappelle, là, je suis en train de piloter l'avion. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte, celui-là?
Exact.
Et il te rappelle, ouais, ça va, ouais, comment tu peux te téléphoner alors que tu pilotes un avion? Je dis, il est fou,
mais parce qu'il vole très bas,
Tu téléphones bien en voiture, toi?
Alors, ouais, enfin bon.
Moi, avec Gérard Bourgoin. Mais je te promets qu'avec Gérard Bourgoin, il m'est arrivé de faire des vols. On voyait dans la rue tellement il était en rasmote et tout. Il s'en foutait de monter à certains paliers et tout. On arrivait de Paris parce qu'on a vu un petit accident d'avion justement, une hélice qui avait projeté, on les avait pété un hublot. Bref, il nous ramène comme ça en catastrophe. Et le mec, il est jamais monté. On était, je sais pas moi, peut-être 100 mètres au-dessus des fils électriques. Et il pilotait ça comme un sagouin, quoi. Mais on flippait, moi. On flippait, je te promets. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'il captait avec les téléphones. C'est dingue. Non, mais c'est. Bon, on a pris des risques, hein, mais c'était beau. Ouais, c'était beau.
Dans quelques instants, le quiz, Lionel, ce qu'on va faire, c'est que tes propositions, tu les gardes sous le coude. Et quand tu reviens la semaine prochaine, on les ressort. Parce que là, on n'a pas le temps.
Ok,
mais c'était sympa. Attention, le quiz. Je constate que Pierre est en train de réviser déjà. Là, ça fait 5 minutes qu'il dit plus rien. Je le connais par cœur, il révise.
Non, mais j'ai écouté Yo avec attention. Moi, c'est mes premières années pro et j'adorais l'agir.
Et donc, je remercie Mathieu au 32-16, bien sûr. Mathieu, rappelle-nous quand tu veux pour parler d'Auxerre. Je reconnais que c'est pas souvent. Hein. Mais bon.
Merci à vous, merci.
Peut-être une prochaine fois.
Ciao, Mathieu.
Allez, à tout de suite pour le quiz.
RMC. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Ils sont là, Daniel Riolo, Pierre Ducrot et Lionel Charbonnier. Attention, messieurs, dames, quiz tout de suite. Et puis le quiz à 23h40, bien sûr, en espérant que cette fois, ce ne soit pas truqué. Juste avant le quiz, je rappelle évidemment qu'RMC s'associe à la Fondation des Hôpitaux de Paris, vous le savez, pour soutenir les personnels soignants en cette période de crise sanitaire. Vous pouvez faire un don. Vous envoyez don par SMS au 92 111 pour donner 5 euros. Ou alors vous allez sur rmc.fr, tout ça est expliqué très très clairement. Donc n'hésitez pas à faire cette démarche, bien évidemment, comme nous tous. Les gars, vous êtes prêts?
Oui.
Prêt. Très bien. Attention.
Ah mais c'est toi qui le fais, le quiz.
Ah oui, c'est moi qui le fais. Et attention, parce que j'ai bossé grave.
Pour une fois, ça va pas être truqué si c'est toi qui le fais.
On a Valentin et Mehdi qui sont avec nous. Valentin, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Valentin, je te laisse le choix entre l'équipe Charbonnier, l'équipe Riolo ou l'équipe Ducrot.
L'équipe Riolo.
Très bien. Daniel plus Valentin. Et j'ai également Mehdi qui est là. Salut Mehdi.
Salut.
Mehdi, il va falloir que tu choisisses entre l'équipe Charbonnier et l'équipe Ducrot. Choix cornélien.
Ducrot, en tant que bon parisien.
Très bon. Pierre et Mehdi, Daniel et Valentin, face à Lionel tout seul, qui a l'habitude, hein, il vient d'Auxerre, il se bat.
Je suis confiné.
Les gardiens, ils sont tout seuls.
Attention, on va démarrer par un petit quiz qu'on n'a pas fait depuis longtemps, mais que j'aime bien. C'est le célèbre quiz initial. Je vais vous donner des initiales toutes bêtes. Il faut me trouver un joueur de foot ou un entraîneur qui a ses initiales. Je prends aussi le président éventuellement, le personnage du foot quoi. Vous êtes prêts? Attention, là c'est de la rapidité. BM.
Bernard Mendy.
Bernard Mendy, Daniel, bien joué. Il y avait aussi Blaise Matuidi, par exemple. On continue. E, C.
Éric Carrière.
Éric Carrière, Lionel, bien joué. Oui, il y avait aussi Eric Cantona, par exemple.
Ah ouais.
Attention, un facile. CR.
Cristiano Ronaldo.
Oui, Valentin, bien joué. Cristiano Ronaldo.
Incroyable.
2 points pour l'équipe Daniel Valentin.
J'en avais aucun, même si tu me laissais 10 minutes.
Attention, un peu plus dur. D. O.
David Ospina.
Ah oui.
Bravo.
Bravo.
Oh là là. Bon, en fait, j'avais plutôt pensé à Delionis, mais
aussi.
Aussi. Attention, WR. WR.
William Rayash.
Non. Refusé.
Oh non, mais quel truc, quel bandit celui-là.
C'est très bon. C'est très bon.
Wood Van Nistelrooy.
Wood Van Nistelrooy. Non, ça ne marche pas.
Non, non, Walter Renitez. Walter Renitez.
Walter Renitez non plus. Regardez vers l'Angleterre. Pourtant évident.
Wayne Rooney.
Bien joué.
C'est tellement évident.
Wayne Rooney, bien joué, Pierre. Attention.
A... Oh, vas-y, change de jeu là.
Non, non, j'en ai encore 2-3. AC.
Milan, non.
Antonio Conte.
Antonio Conte, ça
ah ouais, ah oui, Daniel Conte, ouais,
valide. Il y avait aussi Alain Caviglia, par exemple.
Alain Casanova aussi.
Alain Casanova. Un petit facile, DG.
Daniel Gilbert.
David Ginola.
Oui. C'est Valentin encore.
Et il est avec qui, Valentin?
Il est avec
toi. Il est avec toi. Un peu plus dur, DZ.
David Zenden.
Non.
Mais y a David Zitelli. David Zitelli.
Zitelli. Putain. David Zitelli, bien joué, Daniel. MM.
Hein?
MM.
Quoi?
MM.
Marvin Martin.
Marvin Martin, oh, Mehdi, bien joué. Il y avait aussi Mickaël Madar. Et puis EP. Facile.
Emmanuel Petit.
Emmanuel Petit, Valentin, bien joué. Voilà pour le quiz initial. Vous êtes pas mal. Petit point après ce premier quiz. Daniel et Valentin, 6 points. Pierre et Mehdi, 3. Lionel tout seul, 1. Attention. On a parlé de la fameuse équipe donc d'Auxerre 1996. Nous sommes d'accord. Je vais vous demander de me citer, chacun à votre tour, cette quiz de rapidité, hein, les équipes qui cette année-là, on va faire une tournée, qui cette année-là étaient en Ligue 1. Vous m'avez compris?
Oh la vache, ouais.
Lionel,
compris, oui.
Lionel, on démarre par toi.
PSG.
PSG, c'est bon. Daniel.
À l'OM.
Marseille, c'est bon. Pierre.
Nantes.
Attends, Marseille, c'est pas
bon. Ah non, Marseille,
bon.
Ils sont en Ligue 2.
Ils sont en Ligue 2.
On les bat en Coupe de France, on l'a dit tout à l'heure. Avec les Minots.
Exactement.
Ils montent à l'été 96.
Exactement, donc ils ne sont pas en D1 cette année-là.
Ah, 96, l'année où Auxerre joue.
Eh oui, Pierre, à toi. Duel, Pierre.
Non, quelle erreur.
Nantes, c'est bon. Lionel. Allez, faut aller vite.
Monaco.
Monaco, c'est bon. Pierre.
Lens.
Lens, c'est bon. Lionel.
Montpellier.
Montpellier, c'est bon. Pierre.
Lyon, on a dit tout à l'heure. Lyon.
Lyon, non, c'est bon.
Ah non, c'était en coupe. Oh, j'ai eu de la chance que c'était Lionel. En coupe. On avait parlé de Lyon.
Bah, Lionel, tu les as tous battus.
Cannes, c'est bon.
Oh, là,
Pierre.
Bah, j'aurais pas pensé à celui-là. Merci de l'avoir dit. Oh.
J'ai failli prendre un briquet dans la tête cette année-là.
Metz, puisque Metz est au coude à coude avec Paris à l'époque.
Bon. Lionel.
Rennes.
Rennes, c'est bon. Pierre.
Guivarch, il m'a marqué un but.
Lille.
Lille, c'est bon. Lionel.
Metz.
Metz, déjà dit.
Non.
Ah oui, déjà dit. Si Pierre t'en a un, 3 points pour Pierre.
Pourquoi?
Il faut que t'en aies encore.
Bah, il faut que t'en aies encore. Eh oui.
Bah, j'ai pas commencé, tu rigoles. Ah oui.
Mais qui a dit Metz?
Bah, Pierre, t'étais pas attentif.
J'ai pas entendu. Guignon, vas-y, dis Guignon, il y avait Guignon.
Non. Si, ah oui, il y avait Guignon, il a raison, bien sûr. Guignon, bien sûr.
Guignon,
lui donne.
C'est bon.
Lui
donne. Bon, ouais,
parce que je suis fort, parce que je suis tout seul. Mon auditeur, il va rien gagner.
J'allais dire Bastia, sinon Gilbert, mais je n'étais pas sûr, Bastia.
Alors, Montpellier, je l'ai dit, il y avait Strasbourg.
N'ont pas été cités. Le Havre, Strasbourg, Guingamp, dont on a parlé tout à l'heure en plus.
Ah oui,
Bordeaux, Saint-Etienne, Nice, Bastia et Martigues.
Bastia, bon, j'aurais gagné quand même, que j'allais dire Bastia.
Attention, après ce deuxième quiz, Pierre et Mehdi 6, Daniel et Valentin 6, Lionel 1.
Ça valait 3 points, ça ?
Bah oui, ça valait 3 points.
T'as bien gratté, là.
T'as bien gratté. Alors, ah, maintenant, on va faire, si je retrouve ma feuille, attends, le fameux kick-away ici.
Ouf.
Attention.
Ça, j'aime pas ça.
Ça, t'aime pas.
Ah non.
Ouh. Attention. Kick-away ici, je donne les clubs. Hein. Ordre ou pas. Valentin Mehdi, vous jouez aussi, évidemment. Et on voit qui l'emporte. Attention. Guignon. Sochaux. Nantes. Lyon. Le Havre.
Caviglia.
Caviglia, Daniel, bien joué. Je l'ai cité tout à l'heure.
Sochaux, il est formé à Sochaux.
Et il est formé à Guignon et après il va à Sochaux quand il est jeune.
Ah oui, c'est pas dans l'ordre, t'as dit, oui, pardon.
C'est pas forcément dans l'ordre, mais.
Ok.
Attention, Sochaux. Sochaux, Laval, Cannes,
Laval,
Monaco, PSG.
Madar.
Madar, bien joué, Pierre.
Exact.
Mickaël Madar. Il y avait également La Corogne et Créteil. Bon. Attention. 3, Saint-Etienne, PSG.
Matuidi,
Daniel.
Bien sûr.
C'est bon. Auxerre, Martigues, Bordeaux, Montpellier.
Aslan, non.
Nîmes.
Rio.
Manchester non. United.
Oh, Cantona.
Cantona.
Sylvestre. Daniel a été Cantona. Le premier, c'était Cantona.
Non.
Si, c'est Daniel, je te promets.
Ah bon ?
Ouais, c'est Daniel.
Je l'ai pas dit fort.
Et il l'a dit. Il l'a dit, non, il faut reconnaître. Attention, restez concentrés. Gymnasia La Plata.
Oh là.
Reims.
Bianchi.
Tours.
Bianchi.
Monaco.
Onis.
Delionis.
Daniel. Putain, et Toulon. Attention. Metz. Nancy. Strasbourg. Karlsruhe. Istres.
Ismaël. Ah non.
Hibernians. Nancy. Metz. Strasbourg. Karlsruhe. Hibernians. Istres.
Ah!
Il a déjà été cité dans ce coup.
Zitelli,
Lionel, bien joué.
Oh, putain.
Cité tout à l'heure.
Oh, bien sûr.
Eh oui. Allez, un petit dernier, facile. Everton, Manchester United, DC United, Derby County.
Rooney,
bien joué. C'est bien joué, Valentin.
Il a pris tous les mecs qu'on a cités tout à l'heure.
Bah oui, vous avez même pas compris. C'était tous les gars que je vous ai cités tout à l'heure.
Oh là 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 là.
Faut être attentif, les gars.
Il est content de ça.
Bon, on a encore le temps. Petit point après ce deuxième quiz. 6.
Il y a combien
11 pour Daniel et Valentin. 7 pour Pierre et Mehdi. Tout est encore faisable. Et 2 pour Lionel.
Bah, tu m'as pas compté, Cantona.
Attention. Quiz de rapidité. Chaque réponse vaut 1 point. Les championnats se sont arrêtés il y a quelques jours maintenant. Je vais vous donner un pays. Vous allez devoir me donner le club qui, au moment de l'arrêt du championnat, était en tête de son championnat.
Oh la vache.
Vous êtes prêts ?
Bah ouais, à peu près.
Attention. Ukraine.
Donetsk.
Shakhtar, Mehdi, bien joué.
Ah non, je l'ai dit, moi.
C'est Valentin.
Ah, c'est Valentin ?
Et je l'ai dit, moi aussi, j'ai dit Donetsk.
Bon, t'es dans la même équipe que Valentin, donc
ouais,
c'est bon.
Je l'avais dit, ouais.
Attention. Roumanie.
J'ai l'impression que ça a coupé, moi, pour Mehdi, attends.
Roumanie.
C'était Wabu Karest.
Cluj.
Là, c'est bel et bien Mehdi, c'est Cluj. Attention. République tchèque.
Prague.
Slavia Prague, Valentin, bien joué. Attention, Turquie.
Galatasaray.
Galatasaray.
Bakirji Sport.
Bakirji
Sport.
Trabzonspor, Pierre, bien joué.
Ouais, Trabzonspor, ouais. C'était un piège parce qu'on a eu le Galatasaray.
Il m'a inventé un vieux cachet, si je mange.
Non, j'ai dit Bakirji Sport.
Ça n'existe pas, Bakirji Sport.
Siège Bakirji Sport.
Siège Bakirji et Sport. Attention, on continue. Suisse.
Je lui ai dit,
balle.
Young Boys Bern.
Non.
Suisse.
Young Boys Bern.
Saint-Gall, c'était Saint-Gall.
Pierre, bien joué. Saint-Gall. Eh ouais, entraîné par
Guillaume Waro.
Il faut savoir, dans un quiz récent, Saint-Gall était en Belgique. Je ne comprends plus rien.
Oui, il y a des quiz. Il y a des quiz étonnants.
Avec l'accent, ouais.
Des fois. Attention, Autriche.
Salzbourg, Red Bull Salzbourg.
Non.
Austria Vienne.
Non.
Austria Vienne, ouais, ce que j'allais dire. Rapide de Vienne.
Rapide de Vienne.
Non.
Salzbourg.
Un club entraîné par un Français.
Ah ben bah, c'est ton équipe là, de Valérie Ismaël, Kajin, mais je sais plus le dire le nom.
Kajiri Sport.
Bah alors non, c'est le club d'Ismaël, c'est le club d'Ismaël, je le sais.
Exactement.
Moi, je sais pas. Moi. Ouais,
je bah, sais si, plus, mais moi. Je sais moi, plus je le sais dire le nom. Plus.
C'était le LASK Linz.
Ah putain.
Attention, Linz. Rapidité, Espagne.
Barça,
c'est Daniel qui a été le plus rapide. Attention, rapidité, Belgique.
Bruges,
Pierre, c'est bon. Attention, rapidité, Portugal.
Benfica.
Porto,
Porto, c'est Mehdi ou Valentin ?
Non, c'est Valentin.
C'est Valentin. À la fin de ce troisième quiz, Pierre et Mehdi réduisent l'écart. Pas. Attention.
Comment ça, il peut réduire l'écart ? On en a 10-5 au moins. Là,
bah là vous avez 15 points.
Oh non, mais non.
Vous avez 15 points, Pierre et Mehdi en ont 11.
Oh bon ?
Eh oui, ouais. Ils en ont 11.
Moi, j'en ai 12.
Lionel en a 2. Lionel en a 2. Attention. Oh,
chaque fois que j'en dis, tu me les mets pas.
Attention, il nous reste 5 minutes, vous avez le temps de vous refaire.
Ah, mais c'est quoi ce
plus
de long, là ? Ça sert à quoi de faire aussi long ?
Tu crois que t'as gagné ? Non, t'as pas encore gagné, mon vieux.
J'aurais préféré faire mes menus. Hein.
On teste
ton endurance.
On a parlé tout à l'heure de Delionis. Ok, rentre dans l'histoire. Pourquoi ?
Meilleur buteur.
Meilleur buteur de la Ligue 1.
Meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1. Combien de buts ?
Oh, 230.
299.
Ah oui, ok. Ouais.
Attention, je vais vous donner une année.
300 quand même.
Ah, c'était pas le coup.
Ah, le meilleur buteur par année.
Je vais vous donner une année. Vous allez devoir me donner le meilleur buteur de cette année-là.
Aïe, aïe.
Ah, ça j'adore. On va démarrer tranquillou. Hein. Un petit 2011.
Zlatan.
Non.
Non.
Hazard.
Non.
Wow, 2011.
C'est une chance.
2011. Gamero.
Lissandro.
Non.
Gignac.
Non. N'importe quoi.
Oh là là,
2011.
Attends, Banyang.
Quand tu dis hasard, t'es pas loin.
Moussasso.
Oh putain.
Daniel.
Oh là là.
Bien joué.
Si on réfléchit à qui était champion, ça va peut-être aider. Je suis con. Moi.
Attention, 2000.
2000.
Ça doit être Marco Simone.
Non.
On doit pas être.
Trezeguet. Anderson.
Sonny Anderson. Nelly. Bien joué. Attention, 91.
Papin,
Daniel, bien joué. Attention, 95.
Alors, 95, Papin. C'est Patrice Loco, 95.
Patrice Loco, Daniel, bien joué. Attention, si je vous dis 86.
86. Non. 86.
Un attaquant africain.
Toko.
Non.
Oui, hein.
Non plus.
Mais non, 86 les amis, 86, ouais. Donc 86, le PSG est champion, mais c'est pas un buteur du PSG.
C'est pas Toko. Il joue à Saint-Etienne ?
Non, il jouait dans le nord-est de la France.
Bokhandé.
Bokhandé, bien joué Pierre.
Merci Daniel. Putain, qu'est-ce que je suis con, le PSG le recrute l'année d'après parce qu'il est meilleur buteur.
Superbe. Oui. Attention, un très facile quand on réfléchit deux secondes, 58.
Copa.
Oh, on l'a dit tout à l'heure.
Fontaine.
Mais je voulais dire Fontaine et j'ai dit Copa, je suis complètement con moi. Je voulais dire Fontaine, c'est Copa
qui
est sorti. Qu'est-ce que je suis con.
Avec le stade de Reims.
C'est Valentin.
Et qu'est-ce que je suis con.
Bon, c'est facile.
34 buts en 34 journées.
Je voulais dire Fontaine. Je sais pas pourquoi j'ai dit Copa, jamais de la vie. Je veux dire ça en plus.
Attention, 1983.
Je suis un but par match.
83, c'est pas 83. C'est pas Vahid.
Vahid Halilhodžić, bien joué Daniel.
Bravo, bravo.
Ah, il est là, un père Riolo. Hein.
Ah ouais.
Attention, il nous reste 2:30. Si Pierre et Mehdi voulaient vous refaire, c'est maintenant. 2015.
La Cazette.
C'est Valentin ?
Ah oui.
Oui.
Et Valentin, il assure, hein. Je pense qu'il a ramené la moitié des points. Là.
Ouais, largement. Ouais. Bravo Valentin. Ouais.
Attention, 2005.
Oleta ?
Non.
Non, 2005.
Pour l'État, c'est 2006 et 2007.
Lyon est champion.
2005-2006.
Lyon est champion.
Qui c'est qui avait eu.
Lissandro ?
Non, il joue dans un club qui.
Il est arrivé bien plus tard à Lyon.
Qui a fini 4e cette année-là.
Ah ouais, putain, dis donc.
2005.
Non, je sais pas s'il a fini 4e.
Cissé ?
Ouais, Cissé, j'allais dire moi aussi.
Il joue dans un club breton.
Frey.
Frey, bien joué Pierre.
Ouais.
Avec Rennes, bien sûr.
Super.
Exactement.
Ouais. À Rennes.
Alexander Frey. Qu'est-ce que je peux encore. Ah tiens. Alors je vais vous en donner un. Hein. On va dire que celui-là il vaut 2 points. pas, il vaut 2 points. Si vous arrivez à... Parce qu'en 94, il y a 3 meilleurs buteurs à égalité. J'en veux au moins 2.
Oui, hein. C'est l'année où le meilleur buteur, il a que 16 buts, non ?
20 buts.
Bah, il n'y a pas justement Zitelli en 94 ?
94.
Il y a un joueur de Monaco, un joueur de Lens, un joueur de Nantes.
Wea, Loco.
Loco ?
Non.
Alors, il y a Wedek.
Il y a Wedek, ça fait 1. Cherchez les autres. Daniel en a déjà un.
94.
Il manque le Lensois et le Monégasque.
Boli.
Roger Boli.
Ouais.
C'est Valentin Bully, encore ?
C'est Mehdi.
Ah, Mehdi, bien joué. Attention, parce que là, vous trouvez le troisième, Mehdi ou Pierre, c'est les deux points.
Il manque lequel de
Le Monégasque. Le Monégasque qui... un joueur, comment dirais-je
champion du monde. Italien ?
Champion du monde. Djorkaeff, Pierre, bien joué. Djorkaeff, voilà.
Ouais, bravo.
Bon, bah les gars, score final. Voilà, Valentin et Daniel, 21 points. Pierre et Mehdi, 16. Ouais,
Valentin, je tiens à lui féliciter avoir. Parce qu'il en a trouvé
des trucs. Valentin, chapeau l'artiste.
Bravo aussi à Daniel. Bonne équipe.
Voilà. Sinon, il y avait. Je vous ai pas donné celui de 1937, Oscar Rohr avec Strasbourg. Bon, voilà, c'était il y a longtemps. Mehdi, Valentin, on va vous envoyer un t-shirt de l'after à chacun pour avoir joué avec nous. C'était sympa. Nous, on se retrouve demain. Demain, avec un nouvel after à 22h, bien sûr, avec vous, de 22h à minuit. Et puis, on te garde le PSG Guignon, Pierre, spécialement pour toi cette semaine. Ce sera cadeau.
Ouais, ça, jeudi, je suis là. Jeudi soir, je suis là, si vous voulez.
Comme ça, tu as le temps de te remémorer toutes les bonnes anecdotes qui vont bien. Donc, avant le match, pendant le match et après, si tu veux bien, on veut tout savoir.
Bande de salauds.
On appellera peut-être Trivino ou je sais pas qui.
Sylvain Distin.
Par exemple. Salut à tous, à demain soir, 22h. Salut Daniel, salut Lionel, salut.
Ciao, restez chez vous. Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything. From city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.